Sous-rocher le homard. Mission proposée et animée par Christophe Abramowski. Les Chinois, ils l'entendent?
Bonjour à tous sous le rocher, le homard, vous le savez, c'est votre émission qui parle des enfants, des ados et de leurs parents. Et vous nous retrouvez un lundi sur deux, le deuxième et le quatrième lundi de chaque mois, en direct, de 19h à 20h et le mardi suivant de 19h, de 11h à 12h pour la rediffusion. Et je crois même qu'il y a une diffusion la nuit, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Vous pouvez nous écrire par courriel à sousleroche@gmail.com pour nous poser des questions ou donner vos remarques. Et vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog http://, sousleroche.canalblog.com. Depuis de nombreuses années, les chercheurs travaillent sur la place de la mère au sein de la famille. Celle du père fait aussi l'objet de nombreuses réflexions. Mais qu'en est-il de la place des frères et des sœurs? Les contes et les légendes font pourtant la part belle aux relations fraternelles. La légende romaine des deux frères Rémus et Romulus, abandonnés par leur mère et élevés par une louve, symbolise la rivalité, structurante semble-t-il, mais qui aboutit au meurtre de Romulus par Rémus. Les contes de notre enfance mettent en scène également les relations fraternelles où l'aîné jouit de toutes les faveurs alors que le cadet est le plus souvent méprisé. C'est pourtant ce dernier qui s'en sort le mieux, à l'instar du petit poucé ou de Cendrillon. Jalousie et complicité, rivalité et fraternité, haine et amour, autrui et soi, les relations fraternelles semblent se décliner dans l'ambivalence permanente, comme s'il s'agissait d'être à la fois même et à la fois différent. Pour parler de tout cela, nous recevons Stéphanie Jacquemin, qui est chercheure en psychologie du développement à l'université de Toulouse, le Mirail. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Donc vous allez nous parler de ces fameuses relations fraternelles. Et effectivement, comme je le disais en introduction, on parle beaucoup des relations entre les enfants et les parents, mais finalement, pas tellement des relations entre les frères et sœurs. Alors, c'est un petit peu pour ça que vous avez voulu vous intéresser aux relations fraternelles ?
Oui, tout à fait. Ce sont des relations, en fait, dont on prend seulement conscience depuis quelques années, qu'elles ont une importance très, très forte pour le développement de la personnalité de chaque individu. Elles ont même des conséquences après dans le choix qu'on va avoir de son conjoint, par exemple.
Elles ont des conséquences dans le choix du conjoint.
Tout à fait.
Ouh là là.
Donc c'est vraiment...
Il y en a qui doivent trembler, quand même.
C'est une relation qui est très importante.
Pourquoi ? Pourquoi on va choisir son conjoint s'il est issu d'une famille...
Il y a certains travaux qui montrent qu'on recherche dans son conjoint ce qu'on a vécu dans sa propre fratrie aussi. Par exemple, si on a eu un frère avec qui on s'entendait particulièrement bien et qui était beaucoup plus âgé, on va essayer de retrouver cette ambiance en fait avec son conjoint.
Ah oui.
Ouais.
Ah tiens, c'est étonnant ce genre de choses. Donc on va essayer de reproduire la relation fraternelle avec notre conjoint.
Parce qu'on s'est formé une sorte de modèle en fait avec ses frères et sœurs.
Voilà, on s'est formé
avec un frère ou une sœur en particulier.
Mm-hmm. Et c'est rassurant.
Oui, tout à fait.
C'est rassurant, donc on recherche ça.
Ça apporte une certaine sécurité.
Alors effectivement, il y a des modèles. Jusqu'à présent, beaucoup d'auteurs travaillaient, enfin les psychologues travaillaient sur cette relation verticale, c'est comme ça qu'on l'appelle, entre les parents et les enfants.
Oui, tout à fait. Ben, avec le développement de la psychanalyse, en fait, on a surtout travaillé la relation mère-enfant, d'abord.
Et heureusement, on commence à s'intéresser au père maintenant.
Voilà. Ça, depuis un petit peu plus longtemps encore que la fratrie, on a introduit le père et on a montré qu'il avait également un rôle très important et complémentaire de celui de la mère.
Mais c'est vrai, absolument.
Voilà. Et donc maintenant, on s'intéresse à la fratrie. Mais Freud, qui a très peu parlé finalement de la fratrie, en fait, lui, il a surtout introduit la fratrie en montrant que c'était une sorte de sous-produit finalement de la famille, et sans vraiment mettre en exergue l'importance de ces relations-là.
Mais il en a parlé quand même.
Oui.
Il a commencé à le développer.
Il en a parlé, mais alors sur le versant vraiment rivalité-haine, mettant en parallèle avec le complexe d'Œdipe.
Voilà, c'est ça. Hein. Il utilise le complexe d'Œdipe et puis à partir de ce complexe d'Œdipe, il va développer ce qu'il appelle le complexe fraternel.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il va... Il va montrer en fait que le petit frère ou la petite sœur qui naît, elle apporte d'abord une certaine rivalité, des sentiments de haine chez son grand frère ou sa grande sœur, et parce que elle est là pour prendre la maman.
Elle prend la place.
Hein. Il prend beaucoup de place, ce nouveau bébé, et donc forcément on le hait tout de suite en fait. Et le temps passant, l'enfant se rend compte que il a pas le choix, que finalement ce bébé-là, on va pas le ramener à l'hôpital, donc on va le garder.
On va pas le donner aux voisins non plus.
Avec. Et donc il met en place une sorte de mécanisme de défense qui est une formation réactionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'éprouver de la haine, il va éprouver de l'amour pour cet enfant.
C'est très lié, l'amour et la haine.
Tout à fait.
Hein, c'est la théorie psychanalytique.
Et dans la fratrie, c'est vraiment les deux sentiments qui sont... c'est cette ambivalence, en fait, qui est permanente.
C'est vrai. On a toujours le sentiment, effectivement, quand on discute, alors sans faire d'études scientifiques pour autant, mais en tout cas, quand on parle avec les uns et les autres, quand des frères et sœurs, il y a toujours cette ambivalence. C'est-à-dire, ce frère ou cette sœur qu'on aime et puis qu'on déteste, hein, c'est toujours partagé. Alors, il y a un cas particulier, c'est le cas des jumeaux.
Je sais pas si c'est vraiment un cas particulier, parce qu'ils ont la même problématique toujours d'être à la fois pareil et de se différencier. Elle est peut-être encore plus forte chez eux, puisqu'en plus, ils ont le physique qui fait qu'ils sont pareils. Donc, il va falloir trouver d'autres choses pour se différencier. Et c'est vrai que chez les jumeaux, on dit toujours qu'il y a un enfant qui est leader.
Oui.
Donc,
de la même manière dans la fratrie.
Voilà.
Il y a là aussi... Est-ce que dans la fratrie, il y a cette position de leadership
de domination,
qui se développe?
Oui, bien sûr. Notamment, le rôle des aînés, en fait, fait que souvent, il y a une domination de la part des aînés qui sont proches des parents, qui, eux, ont comme modèle les parents et qui ont tendance parfois à reprendre un peu, à diriger un peu les choses.
D'autant que c'est un modèle, en même temps, le modèle de l'aîné, etc., c'est un modèle historique. Hein. C'est beaucoup de sociétés sont construites, et notre société judéo-chrétienne s'est construite notamment avec une place forte accordée à l'aîné.
Oui, bien sûr.
Hein, c'était lui
le tiers-état, bien sûr. C'est... L'aîné qui héritait de tout.
Voilà, c'est lui qui était hérité. Le cadet, éventuellement, il devenait curé, si tout allait bien pour lui.
Curé ou soldat.
ou bien, et puis, il n'avait rien. Hein, c'est bien ça.
Ah ouais, tout à fait.
Est-ce que vous avez le sentiment que ça a construit une place de l'aîné dans notre société d'aujourd'hui, ce mouvement historique qui date de très longtemps?
Je pense pas, parce que si vous écoutez maintenant les parents, ils ont le sentiment et la volonté, je pense, au départ, de vouloir faire pareil pour chacun des enfants.
Oui.
Il y a une espèce de traitement égalitaire, en tout cas.
Est-ce qu'il est problématique, justement, ce traitement égalitaire? Parce que...
Il est problématique dans la mesure où il ne l'est pas.
Ah,
il ne l'est pas. Et ce qui est important, c'est la manière dont l'enfant le perçoit, en fait.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il peut ne pas être du tout égalitaire. L'enfant le ressent comme ça, mais trouve ça juste. Et à ce moment-là, ça n'a aucune conséquence sur son développement. Il trouve ça juste parce que le petit frère est beaucoup plus petit. C'est normal que maman s'en occupe plus, par exemple.
Oui.
Ou c'est normal que papa passe plus de temps avec mon frère parce que c'est mon frère. Moi, je suis une fille. Papa, il passe moins de temps avec moi parce que de toute façon, j'aime pas jouer au foot.
D'accord. Il y a des codes acceptables.
Il y a des choses qui sont reconnues, qui sont jugées légitimes, et donc il y a pas de problème.
Qui seraient dans l'ordre des choses.
Ouais. Qui sont bien comprises. En fait, l'enfant va toujours essayer de chercher un sens à ce traitement. On appelle ça le traitement différentiel.
Oui.
Il va vraiment essayer de trouver un sens. Pourquoi est-ce que papa et maman me traitent différemment de mon frère ou de ma sœur? Et puis, par contre, s'il ne trouve pas ça légitime, là, ça va être problématique.
Oui, évidemment. Mais en même temps, c'est finalement normal qu'il n'y ait pas, le même traitement, puisque c'est des singularités à chaque fois.
C'est des singularités, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a l'histoire de chacun des parents qui rentre en jeu.
Ouais.
Donc, soi-même, on a occupé une place dans la fratrie. On s'identifie aussi à l'enfant, peut-être qu'il a le même sexe. On se reconnaît dans les qualités de l'un des enfants. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il n'y a pas simplement les caractéristiques des enfants. Et c'est vrai que du coup, on ne les traite pas du tout de la même manière.
Donc, on voit bien que dans la question de la fratrie, on est dans un système complexe. On va marquer une petite pause. On va écouter Richard Gottener. Tiens donc.
Avant même d'arriver dans le ventre de ma mère, au sortir de mon père, moi, ma quiquette, je marchais déjà derrière. Y'en a des c'est la tête, y'en a des c'est les pieds. Ben moi, quand je suis né, c'est la quiquette qui sortit en premier. Depuis par tous les temps,
en ne pensant qu'à ça,
il est là mon karma. Dans une brouette, je charrie mon barda.
Charrie son barda.
Barda, 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 barda.
Blues ou quiquette blues, je suis maudit. Je suis le boss du Bénouze, j'ai le gourou. Blues, quiquette, blues. Oh, combien de nuits blanches ai-je glandi à zoner, la goutte au bout du nez. Moi, à subir et la tyranniser. M'obligeant à rôder, m'attirant dans les bouges, parmi les ongles rouges. Boulevard des Batignolles. N'ai-je traqué la Marie? Je suis sa chose, elle dicte et j'obéis.
Zop, 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 zop.
Blues, quiquette blues, je suis maudit. Je suis le boss du Bénouz, j'ai le gourou. Blues, quiquette blues. Je suis un féodé, elle m'a marabouté. Depuis tout petit, je suis son obligé. C'est une vraie galère, ce pantalon, moi bosse. Toujours, toujours obéir au colosse. Et c'est bien là qu'elle osse. Elle est où l'incendiaire qui va calmer ce feu? Menez-nous et ce nul. Appelez l'infirmière, je vais garder le pieu. Je veux des doctoresses toutes nues sous des blouses pour me traiter mon blues. Ôtez-moi cette idée de mourir en partout. Appelez les urgences, j'ai tant besoin de soins, tant besoin de câlins. Prenez-moi dans vos mains. Il faut faire quelque chose, couchons-nous dans le foin. Blues, au quiquette blues, je suis maudit. Je suis le boss du Bénouz, j'ai le gourou. Blues, quiquette blues, quiquette blues.
Voilà, je vous le donne en mille, le titre de Richard Gottener, Quiquette Blues. Vous êtes toujours sous le rocher, le homard, sur Radio Mon Pays, 90.1. Et aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Jacquemin, qui est chercheuse en psychologie du développement. Vous êtes en thèse, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
En thèse à l'Université de Toulouse-Mirail. Et vous travaillez sur les questions, les relations familiales au sens large. Mais on fait un zoom, là, nous, sur des relations beaucoup plus particulières, qui sont les relations fraternelles, la fratrie. Qu'est-ce que c'est que cette fratrie? Qu'est-ce qui se passe entre les frères et les sœurs, entre les frères et les frères, entre les sœurs et les sœurs, hein, puisque ça se décline sous plusieurs formes. Et effectivement, vous nous expliquez que Freud avait parlé de la théorie du complexe fraternel et avec comme point d'orgue la question de la rivalité, hein, de la jalousie. Et Lacan, lui, va plus loin, enfin, développe au-delà de ça.
Lui, il voit ça différemment. Freud, en fait, a dit il y a d'abord de l'amour, il y a d'abord de la haine et cette haine se transforme en amour. Alors que Lacan, il dit, lui, le premier sentiment qui vient à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est un sentiment d'intrusion. Et c'est une identification, en fait. On s'identifie à cet enfant,
Mais comment parce ça, que... un sentiment d'intrusion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a, quelqu'un de nouveau qui arrive, quoi.
Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, oui. C'est un intrus qui arrive.
C'est un intrus.
Alors, on était trois ou on était, je sais pas, quatre, et tout d'un coup, il y en a un nouveau qui arrive et qui va tout chambouler.
Mm-hmm.
J'étais l'aîné, je change pas de place, mais en tout cas, maintenant je suis plus tout
oui,
seul.
Mais j'étais le petit dernier, et puis je serai
plus le petit dernier. Voilà. Et donc, il y a cette problématique de l'identification, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que l'enfant qui est là, il est comme nous, en fait.
Mm-hmm.
Et c'est exacerbé s'il est du même sexe, par exemple. Et donc, il va falloir aussi s'en différencier. C'est ça qui va créer la rivalité, le conflit entre les frères et sœurs. Donc, pour Lacan, donc, lui se distingue de Freud en disant c'est l'identification qui va créer cette rivalité.
Ah d'accord, c'est l'identification, c'est l'effet miroir.
Voilà,
c'est
l'effet miroir, tout à fait.
C'est le miroir, c'est un autre nous-mêmes,
voilà.
D'une certaine manière.
C'est un autre nous-mêmes.
Mais qui est un intrus en même temps.
Mais il va falloir que je m'en différencie, parce que finalement, si je veux que maman me préfère, il faut que je sois différent.
D'accord, donc il va y avoir comme quelque chose de l'ordre de la concurrence.
Oui, tout à fait, la rivalité, ouais.
Hein,
on est toujours dans la relation verticale par rapport aux parents,
oui.
Donc je gagne quelque chose.
Ah oui, on est toujours dans cette relation verticale, effectivement. Oui. Mais ensuite, il va se passer autre chose dans cette relation horizontale entre les frères ou les sœurs à travers cette relation verticale. C'est-à-dire que la relation entre frères et sœurs, elle est déterminée par la relation avec les parents.
Ça, c'est la vision, l'approche qu'en ont les psychanalystes.
Oui, il y a d'autres visions. Donc.
Voilà, il y a d'autres approches, notamment celle des développementaux, les psychologues du développement,
ouais.
Qui, eux, se sont aperçus en fait, que les relations fraternelles, c'était des relations qui pouvaient être complètement autonomes, qu'on devait aussi percevoir indépendamment des parents.
Mmh.
Et notamment, les psychologues du développement, eux, ils mettent davantage l'accent sur tout ce qui est solidarité, complicité, amour, dans la fratrie, en fait. Plus que le versant rivalité par rapport aux parents.
Finalement, c'est beaucoup plus positif. Ils ont une approche plus positive.
Tout à fait, beaucoup plus positive. Où la fratrie va servir de ressource. Alors, si les parents sont défaillants, les frères et sœurs peuvent prendre la relève. En même temps, la fratrie va servir de modèle.
Ça veut dire que c'est comme s'il y avait, à l'intérieur même de la famille, plusieurs camps, plusieurs clans. Presque le clan des enfants.
Des sous-systèmes, on appelle ça.
Des sous-systèmes, ouais.
Ça, alors là, on rentre dans une grande théorie, la théorie générale du système, en fait,
oui,
qui dit que les éléments sont en interaction. Mm-hmm. Donc, une famille est composée de plusieurs éléments. Et il y a des différents sous-systèmes. Il y a le sous-système conjugal,
mm-hmm.
donc le couple.
Le couple parental.
Il y a le sous-système coparental. Coparental, donc ça, c'est les parents, mais par rapport à l'enfant. La manière dont ils
d'accord.
se soutiennent mutuellement dans la rééducation de l'enfant.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que si le couple conjugal n'existe plus, les parents sont divorcés, le couple coparental, lui, il continue d'exister.
Ah d'accord, oui.
Puisque les parents restent les parents de l'enfant.
On parle de couple coparental dans le cas de séparation.
Oui.
D'accord.
Non, et même, non. Même dans le cas où les parents sont toujours ensemble, il y a des relations coparentales. La manière dont on se soutient, ou au contraire, la mère arrête pas de dire... dès que le père dit quelque chose, c'est nul ce que tu fais, donc le dénigre, ou rentre en compétition avec le père pour l'amour de l'enfant.
D'accord.
Donc ça, c'est les relations coparentales, c'est-à-dire les parents, mais vis-à-vis de l'enfant, ils sont trois. Après, il y a les relations parents-enfants, bien sûr, et ensuite les relations fraternelles.
D'accord. Donc plusieurs sous-systèmes.
Ces sous-systèmes sont vraiment interdépendants, enfin, on s'influence les uns les autres. Et c'est ça qui est intéressant.
Alors c'est vrai qu'on on rencontre souvent dans des familles où il y a beaucoup d'enfants, etc., des sortes de clans. Il peut y avoir le clan des filles, par exemple, mais il peut y avoir aussi le clan des aînés ou le clan des petits. À l'intérieur même, des fratries, il peut y avoir aussi, dans les grandes fratries, des clans.
Oui, bien sûr.
Et ça va construire l'identité de chacun.
Oui, parce qu'en fait, ça permet à chacun de développer finalement ses compétences sociales. C'est les premiers liens sociaux qu'on a, c'est dans la famille, en fait. Donc, on va apprendre à gérer ses émotions quand on se dispute avec son frère ou sa sœur, à résoudre des conflits.
Mm-hmm.
C'est là qu'on disait tout à l'heure que le conflit peut être structurant, oui.
Oui.
Quand on apprend justement à le résoudre de manière positive.
Et effectivement, dans la société civile, en dehors de la famille, on se rend compte des gens qui ont été élevés comme des enfants uniques, soit parce qu'ils avaient des grands frères ou des grandes sœurs avec beaucoup d'âge d'écart, soit parce qu'ils étaient tout simplement enfants uniques. On voit la différence entre ces enfants-là, et enfin ces adultes-là et les adultes qui ont connu une fratrie importante.
Pardon, on peut la voir si l'enfant unique, en fait, n'a pas cherché à l'extérieur à créer ses relations. Mm-hmm. S'il est resté très proche de ses parents, très intériorisé, très enfermé dans les relations avec les adultes. Mais souvent, les enfants uniques essayent quand même de trouver, en fait, ces relations horizontales à l'extérieur de la famille.
Oui, bien sûr. Parce que dans les études que vous menez, vous vous êtes rendu compte que c'était une nécessité en même temps, ces relations horizontales.
Bien sûr, oui. C'est une nécessité dans la mesure où on vit dans un monde ouvert et où on rencontre les autres. Mm-hmm. Et donc, c'est nécessaire de se confronter à l'autre et de gérer tout ce côté social.
Et notamment l'histoire du conflit. Là, on apprend le conflit, on apprend à le gérer. Et du coup, quand on le rencontre dans la vie, à l'extérieur de la famille, ben, on est un peu outillé, quoi.
Voilà.
C'est un peu ça l'idée.
Oui.
C'est intéressant parce qu'effectivement, on n'imagine pas ce rôle donc socialisateur. Hein, c'est comme ça que...
C'est le rôle, un des rôles les plus importants, je pense, de la fratrie. Oui.
Il y a aussi les théoriciens. C'est le théoricien de l'apprentissage social qui parle de ça, hein, de ces comportements.
Ça, c'est autre chose. L'apprentissage social, ce sont des théoriciens qui ont dit que l'enfant se sert par exemple, de la relation qu'il y a entre ses parents, il s'en sert comme modèle. Donc, si par exemple, il se rend compte que ses parents se disputent souvent, mm-hmm. il va recréer ça dans sa fratrie, en fait. Il va se disputer avec son frère et sa sœur parce qu'il a comme modèle.
On rencontre ça.
Ouais.
Ah, c'est intéressant, ça. Donc, il va reproduire, mais alors très directement. Alors,
il va apprendre, comme il a appris, en fait, qu'on gérait
Le conflit,
le lien avec l'autre comme ça, lui, il va refaire ça. D'après ces théoriciens-là. Après, il y a d'autres théories qui disent le contraire, c'est-à-dire que dans certaines fratries, quand les parents se disputent, il va y avoir un effet compensatoire dans la fratrie. Les enfants vont se souder davantage pour justement faire face à ces conflits qui peuvent être des menaces pour eux.
Oui, d'accord. Ouais. Donc effectivement, les théories, elles sont intéressantes à condition de les avoir toutes, quoi. Mais...
voilà.
Vous êtes en train de nous expliquer qu'il n'y a pas de vérité dans ce bas monde.
Si, mais qu'il faut prendre en compte pas mal de facteurs qui sont différents.
Mm-hmm.
Des contextes familiaux, de la composition de la fratrie, l'écart d'âge.
Alors justement, venons-en, puisque vous ouvrez vers ça. C'est ce qu'on appelle les traits morphologiques de la fratrie.
Voilà.
C'est ça. C'est donc le rang de...
qui parle comme ça, qui appelle ça les caractéristiques morphologiques de la famille, la fratrie.
Qui c'est qui appelle ça comme ça?
Odile Bourguignon.
D'accord. Qui est?
Qui est une spécialiste psychologue de la fratrie.
Bien.
Voilà, entre
autres. On est ici pour apprendre, de toute manière.
Et donc, c'est vrai qu'au départ, quand les psychologues se sont intéressés à la fratrie, la première caractéristique qui les a intéressés, c'est l'ordre de naissance.
Oui.
C'est Adler, donc qui était un psychanalyste comme Freud, qui le premier a dit en fait il y a une influence en fait selon notre rang de naissance, on est différent. Par exemple, si on est des aînés, on va être très conformiste, on va représenter l'autorité comme les parents. Alors que si on est cadet, on va au contraire prendre
la
distance.
Dites le mot scientifique, là, plutôt que cadet, on dit comment?
Les puinés.
Les puinés, voilà, j'ai découvert
ça
ce mot.
Ça vous plaît, ce mot?
Oui, j'ai trouvé que c'est un nom, mais effectivement, c'est « et puis il est né ».
Et voilà.
Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein,
l'aîné, il est né en premier, puis après, et puis les autres sont nés.
D'accord, les puinés, c'est ceux qui arrivent après, le premier, quoi.
Tout à fait. Donc les puinés, en particulier le cadet, va lui essayer de se différencier de son frère ou de sa sœur, et lui va se tourner plus vers l'extérieur. Et finalement, il va réussir à trouver sa place en se tournant vers l'extérieur.
Et vous me disiez que Soloway avait trouvé une théorie par rapport à ça. Vous pouvez l'expliquer?
Lui, alors c'est une théorie, il faut quand même dire qu'elle est controversée sur le plan méthodologique, mais sa théorie, donc c'est un Américain, il a étudié un certain nombre de biographies d'hommes célèbres, et notamment de révolutionnaires, alors révolutionnaire dans tous les sens du terme, hein, sur le plan politique, mais aussi scientifique ou autre, mm-hmm. médecine.
Alors, Che Guevara.
Voilà, par exemple.
Et
Fidel Castro.
Fidel Castro.
Et
qui sont des punais.
Voilà, des cadets. Et donc, en fait, il a essayé de démontrer que c'était des cadets qui étaient nés pour se rebeller. Le titre, d'ailleurs, de son livre, c'est « Nés pour se rebeller ».
Les enfants rebelles.
Born to... Ah, c'est traduit en français par les enfants rebelles.
Ouais. Voilà.
En anglais, c'est « Born to rebel ».
Ah oui, d'accord.
Et voilà. Et donc, en fait, il a essayé de démontrer que les cadets, vraiment, c'était des révolutionnaires.
Et donc, ils sont révolutionnaires
pour
se différencier et parce que l'aîné, lui, serait plus conformiste. Voilà. Quoi. C'est ça l'idée.
Ouais.
Ouais.
Alors, à vérifier dans vos familles.
on peut imaginer de toute manière que, évidemment, ce n'est pas une vérité absolue. Quoi, que...
Ceci dit, moi, pour en discuter beaucoup autour de moi, chaque fois que je rencontre des gens et je regarde toujours un peu leur place, c'est une déformation professionnelle, je me rends compte quand même que c'est... Il y a des choses qui se vérifient dans la mesure où l'aîné et le second sont souvent très, très différents.
Oui, oui, oui. Et le petit dernier, est-ce qu'il a une caractéristique un peu particulière, lui, le petit dernier ?
Alors, le petit dernier, d'après la théorie d'Adler, c'est il est conduit par un sentiment d'infériorité. C'est-à-dire que lui, alors soit il est en admiration devant ses grands frères et sœurs et il a envie de suivre, il a envie de dépasser son sentiment d'infériorité pour se montrer au moins égal à eux, si ce n'est supérieur, ou alors il est complètement écrasé. Il laisse tomber et du coup...
Bon.
Hein? Donc voilà, c'est Adler. Après...
Il faut être né quand alors?
Voilà.
C'est quand le bon moment? Cadet, c'est pas mal. Bon.
Parce qu'il est à la fois l'aîné et à la fois...
D'accord. Puis en même temps, l'aîné, il a essuyé les plâtres aussi quand même. Parce qu'on dit... Moi, je me souviens... je vous dirais pas quel est mon rang. Non. Je vois Jeff qui me regarde, mais il le saura pas. C'est de la même manière, bon, l'aîné a essuyé les plâtres et donc celui qui arrive derrière, c'est ce qu'on se disait, ben c'est bien quoi. Il a pu sortir l'aîné, les parents ont râlé et puis quand on est cadet, ben voilà, tout va bien quoi. Hein. Voilà. Les parents, ils ont compris que finalement, il fallait laisser sortir les enfants.
Et en même temps, si on est troisième, le petit dernier, aussi compliqué parce que ben, les parents, ils aimeraient bien nous garder bébé toute leur vie.
Voilà, il faut le protéger, le petit dernier.
En plus.
C'est vrai. Mais sur ces belles paroles, on va s'écouter un petit morceau de musique, tiens donc.
C'est il y a bien longtemps, il y a 100 ans de ça, que ma légende commence. Si légende il y a, enfant, rapproche-toi du feu de cheminée, écoute sur le bois le tonnerre gronder. Il y avait autrefois dans le bourg d'à côté des enfants comme toi. Le village vivait, les rues retentissaient de l'écho de leur jeu. Mais l'homme a provoqué la colère de Dieu. La colère de Dieu, Satan au manteau noir, un jour s'est arrêté près du petit lavoir. Vêtu en étranger, il avait à la main une sombre mallette, un mouchoir de satin et de noires lunettes. Et de noires lunettes, il demanda aux gens à parler au Seigneur du bourg en affirmant qu'il était le sauveur, parlant de marketing, de salut du village, qui malgré son camping n'était plus à la page. N'était plus à la page, il parla longuement aux 15 élus locaux. Et malgré son accent, à vous glacer le dos, ses mots étaient sucrés et parfois sibyllins. Les élus subjugués ne répondirent rien, mais tous furent d'accord à l'issue du débat sur la future mort du village. Et cela pour la simple raison que l'industrie manquait. L'étranger a raison, il nous faut en créer. Un accord fut conclu, on se serra les mains. Ah, si ils avaient vu le regard du malin. L'usine fut bâtie, mais qu'allait-on y faire? L'étranger avait dit, transmuter la matière. Dans l'année qui suivit, les bocages jaunirent et les joues des petits se creusèrent et pâlirent. Pendant que lentement, toute vie s'en allait, tout le jour en riant, le diable transmutait le diable transmuté. Hélas, un vendredi, 13 comme il se doit, une fille naquit qui possédait trois bras. Alors avec le temps, les mutants se croisèrent et firent des enfants aux formes singulières. Aux formes singulières, on voyait dans les rues se traîner des fossiles qui humains n'étaient plus que par l'état civil. Attention, ils crachaient leur cerveau, vomissaient leur viscère, leur plaie, polluaient l'eau, stérilisaient la terre qui de ce fait en peu de temps se transforma en désert, se transforma en désert. Feu, mon vieil oncle qui ressuscite parfois vient faire un saut ici et me dit qu'autrefois il y avait sur la région comme un grand manteau vert fait d'arbres en vrai bois qui poussait en plein air. Il y avait sur la région comme un grand manteau vert fait d'arbres en vrai bois.
Sous le rocher, le homard, ça c'était Jean Mouchet. Voilà, aujourd'hui nous parlons, sous le rocher, le homard, des relations fraternelles et de la fratrie avec Stéphanie Jacquemin qui travaille sur cette question-là à l'Université de Toulouse-le-Mirail en psychologie du développement. Donc, on en était resté au rang de naissance, être le premier, le cadet, le dernier, enfin c'est bien compliqué, mais finalement c'est encore plus compliqué que ça parce que l'écart qu'il peut y avoir entre les frères et sœurs, entre deux frères et sœurs qui ont plus de 10 ans d'écart par exemple, du coup on a deux enfants uniques.
Oui, tout à fait. Pratiquement. Là on est dans une relation verticale en fait, quand il y a plus de 6 ans d'écart en général, on dit ça. Donc l'aîné se transforme un peu en parent bis du petit frère ou de la petite sœur. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les études sur l'écart d'âge, on arrive à une homogénéité des résultats. C'est-à-dire qu'on découvre en fait que l'écart idéal, ce serait soit en dessous de 2 ans, soit au-dessus de 4 ans.
En dessous de 2 ans, parce qu'il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas encore de jalousie,
voilà.
C'est ça ?
Il n'y a pas de jalousie parce que l'enfant est encore pas très bien conscient, en fait, qu'il est une personne distincte de sa mère, par exemple. Mm-hmm. Donc, quand l'autre arrive, il n'est pas gêné par ça.
Oui.
Il n'y a pas vraiment d'intrusion. Mm-hmm. Et au-dessus de 4 ans, là, par contre, l'enfant est en train vraiment de se différencier. Et donc, là, le petit intrus qui arrive, il entre vraiment en rivalité avec lui.
Oui. Et ensuite...
Ça, c'est entre 2 et 4 ans, pardon.
Voilà.
Alors qu'au-delà de 4 ans, ça y est, je suis vraiment différenciée, donc là, il n'y a plus de soucis.
Au-delà
il y a moins de soucis, on va dire.
Et avec un écart de 6 ans, là, c'est...
Et là, on est dans la relation verticale, donc...
D'accord.
Il n'y a plus de rivalité, on n'est plus sur la même...
Non, mais parce que les auditeurs, vous savez, sont en train de prendre des notes. Et ils se disent, ben voilà, là, j'ai un enfant...
Donc, éviter de 4 ans, ce qui est l'écart quand même le plus courant.
Le plus courant, oui. Puisqu'il faut se remettre de la grossesse,
mais au-delà souffler, de 4 ans, c'est parfait.
Ouais, d'accord.
Vous pouvez vous y remettre.
Oui, mais en même temps, après...
Marcel Riffaud va même jusqu'à dire 6 ans, mais bon.
Ah oui.
Après, c'est quand même une relation particulière.
Ben oui, les enfants sont peut-être ne sont pas dans la complicité comme
voilà.
On peut l'espérer.
En fait, ce qui est important, c'est quand même l'expérience fraternelle, c'est-à-dire les moments qu'on partage, qu'on vit ensemble. C'est ça qui va fonder vraiment la fraternité. Or, quand on a plus de 6 ans d'écart, finalement, à un moment donné, on ne va pas vivre les mêmes choses. On va avoir des copains, on va sortir à l'adolescence. L'autre sera encore au CP, par exemple.
Oui.
Bon, on ne partage pas du tout la même chose.
Mm-hmm.
Donc cette expérience, ce sentiment du « nous »,
oui,
il va être beaucoup moins fort, finalement.
C'est ça qui va cette idée, ce sentiment du « nous », c'est ça qui va faire le lien, vraiment,
oui,
de la fratrie.
La cohésion, oui.
La cohésion.
Tout à fait.
Et c'est ça qu'on va retrouver plus tard dans la vie d'adulte, cette idée de que la fratrie continue, perdure,
oui,
au-delà de la cellule familiale.
Oui, bien sûr.
Parce que bien sûr, après on est voué, chacun d'entre nous, à partir de chez nos parents. Enfin, à part Jeff, bien sûr, qui lui ne part plus. Mais...
qui est avec son Père Noël. À fond avec le Père Noël.
Ne dévoilez pas, s'il vous plaît, les chroniques à venir. Et effectivement, après, on continue à être frères et sœurs. Et cette complicité qui peut y avoir et qui est une complicité souhaitable, elle est déterminée aussi en partie par cet écart d'âge de l'enfance.
Après, bon, évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et surtout, plus on grandit, moins on a cette rivalité, finalement.
Mm-hmm. Ah.
Donc, à un moment donné, on n'est plus dans,
on la dépasse,
dans le conflit.
Vous pensez ? Oui.
Oui, on finit par la dépasser. Ou alors, c'est pathologique.
Oui, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
On devrait l'avoir dépassé, en tout cas.
On devrait l'avoir dépassé. Ça, c'est intéressant, quand même, cet aspect-là, parce qu'on connaît, hein, enfin,
oui,
dans notre entourage, on a des exemples comme ça de personnes, de frères et sœurs, ou de frères, sœurs, qui, comme ça, vont...
Qui sont brouillés.
On a des querelles fraternelles très violentes, d'ailleurs. Elles sont très violentes.
Ouais. Hein. Oui, en général, c'est tout ou rien.
Hein, en général, c'est vrai que c'est tout ou rien. Hein. Il y a des films en ce moment qui passent aussi sur les relations fraternelles.
Il y a beaucoup de films en ce moment.
Il
oui.
y a beaucoup de films. Comme quoi, ça intéresse, ça intrigue. Hein,
ça interpelle. Et surtout, ce qui est drôle, quand on regarde les films qui passent au cinéma, vous avez Les Liens du Sang avec Guillaume Canet, par
ouais.
exemple, et François Cluzet. Là, on a insisté sur vraiment la différence entre deux frères. Un qui est flic, l'autre qui est truand. Donc vraiment, là, on a marqué l'opposition.
Ah oui,
on s'intéresse à cette opposition très, très forte entre deux frères. Après, j'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelle Il y a longtemps que je t'aime. Ou pareil, c'est avec Christine Scott Thomas et Elsa Zilberstein.
Ah, oui.
Christine Scott Thomas qui est en prison et qui a été rejetée de sa famille.
Et plus de 10 ans d'écart entre les,
voilà,
les deux.
Voilà, elles
ont pas mal d'écart. Elles ne se sont pas vues pendant de nombreuses
années. Elles ne se sont pas vues pendant 15 ans.
Oui.
Et donc, Christine Scott Thomas a été rejetée de sa famille. Et quand elle sort de prison, elle va se rapprocher de cette petite sœur, en fait, qui a une vie très posée, très assise, avec un mari, des enfants. Hein.
Mm-hmm.
Et elles vont finalement se trouver très solidaires l'une de l'autre. Donc là, on met le focus sur la solidarité entre deux sœurs. Donc chaque film, en fait, ce qui est intéressant, c'est que soit ça va être la rivalité, soit ça va être l'opposition énorme entre deux frères qui devraient se ressembler, mais finalement non.
Mm-hmm.
La solidarité. Donc chaque film met une facette de la fratrie, de la relation fraternelle en exergue.
Il y a l'idée commune qu'effectivement on est frère et sœur ad vitam aeternam, à vie, hein, mais c'est ces fameux liens du sang,
ouais,
justement. Mais est-ce que ces liens du sang, elles font, ça veut tout dire, quoi? Est-ce que c'est vraiment, ben voilà, on est forcé de s'aimer, quoi, entre frères?
Bah, en fait, les liens fraternels, on n'a pas le choix. Si on est, mm-hmm, si on est du même sang, on n'a pas le choix.
Ils existent,
a le même père,
hein,
même mère, voilà. Et finalement, bah, on fait avec, quoi. Donc, on sait qu'on peut se disputer, on restera frère et sœur. C'est pas comme avec un ami, on va se disputer, on va rompre, on va plus se voir, bon, ce sera fini.
Ça veut dire,
là, on reste frère et sœur.
Ça veut dire que dans l'inconscient de chacun, il y a l'idée que malgré une brouille ou une fâcherie très grave, quand même, on n'est pas seul au monde.
Oui.
Il y a toujours ça.
Il peut y avoir aussi
des
réconciliations qui sont faites à la mort des parents.
Oui.
Ou le contraire, au moment d'héritage, on voit beaucoup de conflits qui refont surface.
Mm-hmm.
Des conflits qui n'ont pas été réglés dans l'enfance et qui refont surface et qui font que la fratrie éclate, explose.
On peut avoir ça aussi.
Oui, bien sûr.
Et on a aussi des frères et sœurs qui vont se retrouver à des moments dramatiques, donc la mort de parents, comme s'il y avait quelque chose qui ressurgissait en permanence, quoi. C'est pas neutre, quoi, d'être frère et sœur.
Ouais, c'est surtout, je trouve, c'est une certaine stabilité, en fait. Même dans les cas de divorce, finalement, les parents, on va peut-être déménager, on va,
ouais,
aller vivre avec maman ou avec papa, mais la fratrie, elle reste. Elle est unie, elle est là, et elle reste l'élément stable et permanent, en fait.
Et est-ce que c'est la même...
C'est sécurisant, quelque part.
Oui.
Parce que...
oui, on a quelque chose de stable.
On a quelque chose,
il y a
de
quelque chose qui est posé,
qui va rester.
Mais est-ce que c'est la même chose avec ce qu'on appelle les demi-frères, les demi-sœurs? Est-ce qu'ils se posent les mêmes... Est-ce qu'il y a le même attachement?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du sentiment du nous ou de l'expérience fraternelle. Ça dépend ce qu'on a vécu ensemble, depuis quand... Est-ce que depuis tout petit, on est ensemble, la famille s'est recomposée rapidement et du coup, on a vraiment partagé et vécu des choses communes,
mmh.
Ou est-ce qu'on arrive plus tard et finalement, on ne partage pas du tout les mêmes choses? Ça va dépendre de l'écart d'âge,
de
la composition sexuelle. Là aussi, il y a...
Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose par rapport à ce qu'on disait précédemment sur ces liens du sang, où là, c'est il n'y a pas le même père ou la même mère, et il y a quelque chose qui change quand même. Est-ce que ensuite ça va vraiment fondamentalement, ça peut fondamentalement changer par justement par ces questions de...
On peut pas répondre comme ça. Ça va dépendre complètement du contexte, comment c'est pris. Est-ce que les parents vont réussir finalement à pas faire trop de différence? Mm-hmm. Comment est-ce que les parents vont réagir avec ces enfants qui seront pas, enfin, avec l'enfant de l'autre finalement?
Oui.
Est-ce que voilà, donc comment l'autre va le vivre? Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, donc on peut pas répondre.
Parce que
je pense que là, on est vraiment dans la singularité des histoires. Quoi.
Oui, mais en même temps, c'est des familles qui sont tellement nombreuses de nos jours, puisque on a des familles recomposées quand même extrêmement nombreuses. Il y avait pas ça il y a 20 ans, quoi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc, on doit avoir là aussi des relations fraternelles, du coup, dans ces familles recomposées, qui se jouent différemment, quoi.
Pas tant que ça, finalement.
Ouais, vous avez remarqué dans les études que...
Pas tant que ça, puisqu'on a, effectivement, il manque un lien du sang, mm-hmm. du côté du père ou de la mère, mais finalement, on a un partage, on a des parents qui nous servent de modèle, on a un certain nombre de choses qui sont communes, finalement, aux autres fratries.
D'accord. C'est...
Donc après, tout dépend de l'ambiance générale dans la maison, de...
D'accord, mais c'est intéressant de préciser ça, parce que on pourrait penser qu'effectivement c'est une difficulté supplémentaire, or ça peut ne pas l'être.
Ça peut tout à fait ne pas l'être. Hein? Ouais.
C'est un peu de la même manière avec des enfants qu'on adopte, c'est aussi ce qui va se jouer dans la relation d'amour avec ces enfants-là, et c'est pas tellement le fait d'être du même sang ou pas.
On entend souvent d'ailleurs dire les parents adoptifs. Mon enfant adopté, je l'ai choisi. Mmh. Alors que l'autre, si je l'avais eu biologiquement, je ne l'aurais pas choisi.
Voilà, j'aurais essayé donc, de voilà, le prendre avec des cheveux longs dès le départ. Mince alors.
Il y a cette notion quand même de choix électif, quoi. On choisit un enfant, on choisit un parent, on choisit un frère. Alors que bon, finalement, c'est quand même un choix imposé, quoi. Donc, même
c'est
si
ce
n'est pas biologique.
Ah, oui, oui. Avant de continuer sur la discussion, traditionnellement dans cette émission, sous le rocher Loamor, il y a une chronique extrêmement sérieuse et très importante, qui est la chronique de Jeff, qui est la chronique sortie d'école, où il nous raconte des événements, des histoires très, très singulières justement avec sa fille. Alors Jeff, que s'est-il passé ?
Ah, c'est pas moi aujourd'hui.
Ah.
Cher Père Noël, j'ai été bien sage cette année, mais bon, certes, elle n'a duré que 4 mois pour l'instant. 12 mois, c'était trop long, c'était trop dur, je pouvais pas attendre. Papa a 33 ans. On en a crucifié pour moins que ça jadis. Trop de travail ? Trop de travail, certainement. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Bah, toujours est-il qu'il m'a oublié un mercredi midi à l'école.
Quelle honte ! C'est scandaleux.
C'est mon papa, qu'est-ce que... Le pauvre, trop de travail. Bon, tout s'est arrangé, hein, à l'arrache, comme on dit. Il a téléphoné vite à quelqu'un qui a été à Colomiers, lui était à Toulouse, quelqu'un est venu me chercher. Enfin, tout s'est arrangé sûrement plus ou moins, puisque le lendemain matin, le jeudi, papa m'a ramené à l'école, s'est pris le savon de l'année. Hein, il a baissé les yeux, il a regardé ses chaussures. Il a entendu qu'il avait passé les bornes, que plus de retard autorisé, que la prochaine fois, on ne reçoit pas votre fille. Vous repartez avec votre fille si vous arrivez en retard.
Ah oui, quand même.
C'est dans le règlement, vous l'avez signé.
D'accord, mais tu ne l'avais pas lu aussi. Le papa, il ne l'avait pas lu.
Le papa avait signé le règlement, mais il travaillait trop avant les vacances. J'ai raté aussi mon premier anniversaire.
Allons bon.
Et alors, papa ne le sait pas, mais moi j'ai vu la lettre d'anniversaire. Lui pensait que ça passerait inaperçu. Il avait écrit je t'invite au McDonald's de Colomiers tel jour. Nanana, papa a dit un truc du genre oh, un McDonald's, qu'est-ce qu'elle fout là-bas pour l'anniversaire. Il s'est dit de toute façon, comme elle le saura pas, c'est pas grave. Moi j'ai vu la lettre de mon ami. Johan qui m'invitait à un anniversaire.
Et puis sûrement le lendemain aussi.
Et comme papa travaillait trop, il s'est dit « Oh, ça c'est un embarras de trop, McDonald's, ça m'amuse pas. » Donc, pour noyer mes chagrins, je reste à la maison et j'ai décidé d'écrire un roman. Voilà, j'ai décidé d'écrire un roman, j'écris, je copie tout ce qu'il y a écrit autour de moi. Donc, il y a écrit Radio Mon Pays sous le rocher le homard. Je réécris en lettres capitales Radio Mon Pays sous le rocher le homard. 19h, 20h, un lundi sur deux, voilà. Et puis, et puis j'écris partout là où c'est possible dès que j'ai un papier. Puis un jour, comme papa, qui avait beaucoup trop de travail, ne s'occupait pas de moi, j'ai pris mon cahier de liaison avec le professeur qui était dans mon cartable, et à la page, au milieu, j'ai copié ce qu'il y avait devant moi, c'est-à-dire sur une petite, un petit arrosoir, hein, qu'on utilise en, que papa avait trouvé dans la rue, un truc très très vieux, très très ancien, sur lequel il y avait écrit arrosoir à pastis. J'ai écrit en gros dans le cahier arrosoir à pastis. Donc papa ne s'en est pas aperçu puisqu'il travaille trop en ce moment, et donc j'ai refermé le cahier. Et ce lundi matin, en allant à l'école, quand papa s'est dit, tiens, en fait, le cahier de liaison avec l'école, je le vois jamais, papa l'a ouvert et il a regardé ça, et il est parti dans un grand fou rire en se disant, vite, vite, cachons ça, récupérons le cahier avant qu'il s'en aperçoive. Voilà, cher Père Noël, ce serait gentil d'offrir à mon papa du temps de cerveau disponible pour moi, qui se pose un peu, même si à chaque fois, lui, ça le fait rigoler. Je comprends pas pourquoi il se fait disputer, ça le fait rigoler. Je détruis mon cahier de liaison avec l'école, ça le fait rigoler. Bon, allez, à dans 8 mois, hein, pour la vraie liste de cadeaux. Ciao Père Noël.
Merci Jeff. Elle écrit drôlement bien, hein, Manuela. Hein.
Ah ouais, maintenant qu'elle fait mes chroniques.
Ça serait pas de l'exploitation, ça. Non, mais c'est pas possible, ça. Non seulement tu l'oublies à l'école, mais en plus elle fait tes chroniques. Hein. Non, mais...
ah, elle me le doit bien.
Enfin, heureusement que t'es pas bien payé, hein, autrement, ça y est. Pas... voilà, vous voyez. Ouais. Vous voyez, Stéphanie, c'est ça, toutes les semaines avec Jeff. On en apprend des belles. Hein. Pour l'instant, Manuela est fille unique.
Elle est toujours fille unique.
Elle est toujours fille unique.
C'est bon, ça rentre
bon,
dans les...
vous y mettre.
Alors, est-ce qu'il faut faire un garçon ou une fille, justement? C'est important, ça?
Bah, ça, c'est chacun qui voit avec sa propre histoire, sa propre...
Mais ça compte, ça, la composition sexuée dans la fratrie.
Ah, pour les frères et sœurs, alors.
Pour les frères
pas
et sœurs.
Pas pour les parents.
Ah, pas pour les parents, non, non, oui, je parle d'accord. Pour Manuela.
Pour Manuela, donc... Les deux sont bien pour Manuela, un petit frère ou une petite sœur.
Oui.
Bah, elle n'est pas toute seule.
Elle m'a dit qu'elle voulait un petite sœur. Donc...
c'est bien ça. Voilà. Comme ça, le choix est large.
Ah, il est large. Oui, mais ça.
100% de réussite, elle va être contente pour le petit Père Noël.
Il y a une différence entre dans la fratrie, si c'est que des garçons, que des filles, des garçons et filles.
Oui, mais ça n'est pas la seule caractéristique qui rentre en jeu. C'est-à-dire que deux garçons rapprochés n'ont rien à voir avec deux garçons qui ont 6 ans d'écart, par exemple.
Oui.
Donc, rebelote ont toujours la même chose qui rentre en jeu. Donc, oui, deux garçons rapprochés, on va dire que c'est la fratrie qui va être la plus en rivalité, la plus en compétition.
Oui. Mmh.
Parce qu'il y a quand même un esprit de compétition chez les garçons qui est plus fort que chez les filles.
Oui,
le dire.
C'est vrai.
Oui. Et puis, les études ont montré aussi qu'une mère qui va avoir une fratrie de garçons est moins chaleureuse avec ses enfants.
Ah bon ?
Une mère, par exemple, qui va avoir une fille et un garçon ou deux filles.
Tiens donc, ouais. Et comment on explique ça ? Pour quelle raison ? Parce que les garçons, il faut moins les choyer.
Sans doute, il y a peut-être cette part-là de...
C'est l'idée que, bon, il faut qu'ils apprennent un peu la dure.
Le stéréotype, peut-être, j'y avais pas pensé, mais effectivement, ça peut rentrer en jeu. Moi, je pensais plus au fait que, sans doute, la maman, c'est peut-être moins bien s'y prendre avec un garçon, elle est plus en observation, il y a moins de...
En même temps, il y a quand même quelque chose de très très fort entre la mère et son fils, justement. Hein, par rapport aux théories freudiennes, oui. Là, il y a cette relation mère-fils.
Oui, mais justement, mère-fils. Du coup, elle va peut-être mettre un peu plus de distance, moins de chaleur, ah, pour moins exacerber le truc. Donc,
Oui, assez étonnant. Mais entre frères et sœurs aussi, il y a aussi des études qui montrent, si j'ai bien compris, comment dire, que par rapport aux stéréotypes sociaux, quand on a eu des sœurs, on a peut-être moins dans les stéréotypes sociaux classiques que si on n'a pas eu de sœurs dans sa fratrie, justement.
oui, bien sûr. Mais les études sur la composition sexuelle sont très contradictoires, en fait. On n'arrive pas du tout à une homogénéité des résultats, là.
Ouais.
Contrairement à l'écart d'âge.
C'est pas parce qu'on a eu...
On ne peut pas tirer vraiment de... de liens. On peut pas isoler en fait finalement
oui.
la composition sexuée et dire que c'est parce que on a telle composition sexuée dans la fratrie qu'on va avoir telle.
Oui, c'est pas parce qu'on a eu, si on a un garçon, c'est pas parce qu'on a eu une sœur que pour autant quand on va se retrouver avec
oui,
une jeune femme, on va, voilà, on va pas être moins macho. Non,
ça peut,
on
pas sait forcément,
pas
ouais.
forcément.
Là aussi, toujours plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et on peut pas faire des relations aussi faciles. Ça serait un peu simpliste.
Oui, ça serait un peu simpliste. L'heure tourne et je voudrais pas qu'on se quitte sans avoir parlé quand même d'une association avec laquelle vous travaillez ou en tout cas avec laquelle vous êtes en contact, qui c'est l'association SOS Village d'Enfants. Alors elle a été très médiatisée grâce à Annie Dupéré, mmh. hein, je crois qu'a perdu ses parents et elle est et avec sa sœur elles ont été séparées, elles ont été élevées chacune dans des familles différentes. Et donc, elle a écrit de nombreux ouvrages, elle a beaucoup parlé de ça. Et donc, elle est marraine, si je crois oui. bien, de cette association, entre autres. Et alors, qu'est-ce que c'est cette association ? Vous connaissez bien.
Oui. Alors, c'est une association, en fait, qui, justement, a décidé de protéger les fratries, notamment quand les parents sont maltraitants, mm-hmm. et que les enfants doivent être séparés de leurs parents, d'accueillir donc des fratries, de ne pas les séparer. Et moi, je travaille actuellement avec cette association parce que la question se pose, est-ce que c'est réellement dans 100% des cas qu'il faut conserver les liens fraternels et accueillir les fratries
Ah oui, oui, parce qu'effectivement, c'est alors à en croire quand même l'association qui, elle, milite hein, oui. véritablement pour ne pas séparer les fratries. On a le sentiment que c'est une évidence.
Voilà.
Donc il faut pas séparer. Vous
Exactement.
Dites c'est pas si simple.
C'est pas si simple que ça parce que justement quand les enfants ont subi de la maltraitance, par exemple, certains peuvent reproduire cette forme de violence envers leurs frères et sœurs.
Mmh. D'accord.
Et donc à ce moment-là, c'est pas forcément dans l'intérêt des frères et sœurs de rester avec cet autre frère et sœur.
Ah oui, d'accord.
Donc
oui,
ça peut être dangereux et insécurisant pour les enfants.
D'accord.
Donc là, on se rend compte qu'il y a certains indicateurs qu'il va falloir mettre, définir, puisqu'en fait, il y a très peu d'études finalement qui ont été faites là-dessus. Ils sont beaucoup plus en avance aux États-Unis, mais en France, on est très en retard. Et donc, on essaye maintenant de voir dans quelle situation concrètement il vaut mieux, dans l'intérêt de tous les enfants, les séparer.
Donc vous étudiez quand même ça au cas par cas. Vous essayez un peu de voir au cas par cas comment ça peut fonctionner.
On essaye de l'étudier d'abord de manière globale et ensuite de donner des outils.
Mais pour l'association par exemple, c'est de leur dire, bah, écoutez, dans ce cas précis,
voilà.
bah, peut-être il vaut mieux pas les mettre ensemble.
Voilà, exactement. De leur dire, faites attention à ça et à ça.
Et ils sont réceptifs parce que quand même.
Oui, bien sûr. C'est eux qui dirigent cette étude. C'est eux qui, sur le terrain, ont senti qu'il y avait certaines situations qui étaient
D'accord.
peut-être plus compromettantes que ce qu'on pensait. Et que garder à coûte que coûte la fratrie, c'est pas forcément dans 100% des cas bénéfique.
Mais c'est quand même important même si les enfants vivent pas ensemble, qu'ils restent en contact. Faut quand même conserver le lien.
Oui. Ça, c'est important. En même temps, comme toujours, on revient à cette fameuse expérience fraternelle, s'ils n'ont pas vécu de choses communes, si pendant un certain temps, ils sont coupés
oui.
de ça, ils vont devenir, pas des étrangers, mais ils auront moins de choses
oui, une chose à se raconter,
en commun.
Quoi.
Donc, voilà, mais ça n'empêche pas que plus tard, ils se retrouveront, comme Annie Dupré a retrouvé sa sœur mm-hmm. longtemps après.
Et
parce
vous...
que là, le lien du sang, par contre, va faire que c'est plus fort. Et qu'on veut se retrouver, on veut reformer une famille, encore plus quand les parents ne sont plus disponibles. Et...
Oui, c'est ça en fait. Oui. Hein, c'est qu'effectivement, peut-être que le lien du sang ressurgit quand les parents ont véritablement disparu.
Oui. Et sont défaillants.
Ou sont défaillants complètement. Et il y a besoin, c'est toujours pareil, hein, c'est cette idée par rapport à cet inconscient qui peut y avoir encore plus fort que le conscient, qui est de dire... Ben voilà, finalement, je ne suis pas tout seul au monde.
Oui.
Il y a mon frère, ma sœur, ou mes frères.
C'est une fonction de réconfort, de sécurisation et de ressources. Quoi.
Et vous menez une étude avec SOS Village d'Enfants, mais sur des cas particuliers, sur des fratries particulières?
En fait, là, on est en train... Enfin, ça va se faire en plusieurs étapes. Et c'est vrai que là, on est en train de voir un peu ce qui a été fait aux États-Unis.
Mm-hmm.
Pour voir quels sont, eux, les critères qu'ils ont utilisés. Et ce qu'on souhaite après, donc, c'est créer des outils et les mettre en application dans ces villages, ces villages d'enfants pour...
aux États-Unis et au Canada, ils ont tendance à penser effectivement que les fratries, il ne faut surtout pas les séparer. Vous me disiez qu'il y a une différence d'approche.
Oui, il y a une différence d'approche. Mais c'est l'approche qu'on a utilisée nous au départ. Hein. C'est-à-dire qu'on part du principe que le fait d'être déjà séparé de ses parents, c'est dur. Mm-hmm. C'est un premier deuil à faire. Mais alors en plus, si on rajoute la séparation de la fratrie, c'est un deuxième deuil. Donc une deuxième souffrance qui se rajoute et c'est dur à gérer. Donc on dit pour l'intérêt des enfants, il ne faut pas les séparer. Mais aux États-Unis, ils se rendent compte aussi qu'il y a certainement des fratries où il y a tellement de violence que c'est trop insécurisant. Donc finalement, ce n'est pas positif de les garder.
Bien sûr.
Ensemble.
Bien sûr. Si effectivement il y a la reproduction du modèle familial qui est un modèle de violence et d'insécurité et de maltraitance, c'est pas la peine de continuer. Vous m'aviez donné quelques titres d'ouvrages, notamment Sylvie Angèle, La fratrie, des liens indestructibles, cahier critique de thérapie familiale et de pratiques de réseau. C'est un article qu'on peut lire facilement ou c'est vraiment un article de...
Alors, il y a surtout des livres que je vous ai mis.
Oui. La fratrie, creuser des paradoxes avec Maurice Buisson.
Monique Buisson, c'est une sociologue.
Monique, alors, oui, Maurice. Oh, ça va, Jeff, s'il te plaît. D'accord. Et donc là, c'est une sociologue, c'est un livre un peu grand public.
Oui, oui, ce sont des livres comme le livre de Marcel Ruffo.
Marcel Ruffo, Frères et Sœurs, une maladie d'amour, voilà, chez Fayard en 2002. Oui. Ça se lit facilement.
Oui, tout à fait.
Ensuite, Régine Sel, Fratrie Handicap.
Oui.
Ça, c'est un peu
particulier.
C'est un cas particulier.
Hein, c'est aussi.
C'est édition L'Harmattan. On a parlé donc aux éditions Odile Jacob là de Soloway, de Frank Soloway, 1999, Les Enfants Rebelles, et le titre anglais
Born to Rebel.
Voilà, je le dirai pas moi de toute manière.
Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon.
si,
c'est
très
bien. Mais pour se rebeller.
Voilà, mais pour se rebeller.
Les Enfants Rebelles.
Je vais donner quand même l'association là, les Villages d'Enfants, SOS Village d'Enfants. Donc le site c'est www.village-enfants.asso.fr. Pour avoir de plus amples renseignements, effectivement, on verra qu'il y a aussi Laurence Ferrari qui est marraine de l'association. Oui, 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 bien sûr. Bon. Et Annie Dupéré, mais Annie Dupéré, elle a vécu. Je ne sais pas si Laurence Ferrari, j'ai pas lu les potins, donc je ne suis pas au courant de tout ça.
Peut-être proposer à Rachid Azati d'être participer à l'association. Il y a des problèmes, elle, non ?
Avec ses frères.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à souslerocher@gmail.com et retrouver nos émissions à souslerocher.canalblog.com. Alors, par téléchargement, ça marche un coup sur deux. Enfin, bref. Merci à notre invité d'avoir participé à cette émission, Stéphanie. Merci à Jeff pour ses chroniques, enfin pas
avec
lui,
plaisir.
À Manuela, pas à toi Jeff,
bien
sûr. Cette émission sera rediffusée de 11h à 12h demain mardi, également dans la nuit de mardi à mercredi de 1h à 2h. Et dans 15 jours, il n'y aura pas d'émission puisque c'est un lundi de Pentecôte, si je ne m'abuse. Donc ce sera le lundi 26 mai, la prochaine, à 19h. Et nous parlerons là de la médiation familiale. C'est intéressant aussi. Hein. Merci Stéphanie encore une fois. Bien sûr. Et merci à Michel pour la programmation musicale. Il nous trouve toujours des morceaux, Michel. Merci à tous, au revoir et à très bientôt.